BFM Business présente. BFM Entreprise. Croissance, la stratégie. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise. Vous connaissez le principe, l'émission qui plonge au cœur des boîtes tout au long de la semaine. Le lundi, on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance et le jeudi de transmission. On parle de croissance donc aujourd'hui, une entreprise technologique sur un marché très porteur, la lutte contre les particules fines et plus généralement la dépollution de l'air. Vous allez voir, mes invités aujourd'hui sont Jean-Louis Juchot, président de Talano Technologies. Bonjour. Face à vous, Raphaël Dalmas, fondateur et avocat associé chez Astura. Vous êtes aussi avocat au barreau de Paris et New York. Merci d'être sur ce plateau. On raconte tout de suite cette histoire de croissance BFM Entreprise. C'est parti.
Le témoignage.
Jean-Louis Juchot, président de Talano Technologies. Parlez-nous de Talano Technologies. C'est une start-up qui s'attaque donc à la pollution du transport.
Oui, alors particulièrement à la pollution née de l'abrasion des plaquettes de frein. En un mot, quand on freine, eh bien, c'est une plaquette qui s'appuie sur un disque, c'est le principe du frein à disque, et ça use la plaquette. Cette usure crée des particules fines, ultra fines, etc. Et ces particules fines et ultra fines sont particulièrement dangereuses pour la santé d'une part, pour l'environnement d'autre part. On pourra rentrer dans les détails. Techniquement, de quoi parlons-nous? Je vous ai amené ici une plaquette d'un camion. Oui, ça c'est une plaquette de camion quelconque. Ça fait cette épaisseur. Eh bien, lorsque la plaquette est usée, c'est toute cette partie-là qui aura été vaporisée.
Oui, parce qu'elle se plaque contre le pneu.
Elle se plaque contre le disque.
Oui.
Donc le disque vient comme ça, il y en a une de chaque côté évidemment. Elle se plaque comme ça, le disque en tournant abrase la plaquette, et voilà. Et je vous ai amené, pour la compréhension, une plaquette, là c'est lourd, excusez-moi, d'un métro. Ça vient s'appuyer sur la roue du métro, hein, comme ça, carrément sur la roue, c'est plus un système de disque, c'est un patin. Et tout ça, toute cette partie-là, va être vaporisée. Sur un métro,
ouais.
Vous en avez une par roue. Donc,
autant dire que dans les stations de métro,
voilà.
Les particules fines terminent dans nos poumons. Très concrètement.
Très concrètement.
40 000 morts chaque année en France. On donne le chiffre parce que finalement, c'est un vrai problème de santé publique.
C'est un vrai problème de santé publique. Alors, les 40 000 morts, c'est sur la pollution en particules fines en général, sur le freinage. Heureusement, c'est pas 40 000 morts. Mais c'est très important et surtout, c'est une de ces pollutions qui provient du monde du transport qui n'a pas encore été adressée au sens réglementaire du terme et qui va l'être. Puisque la réglementation a évolué, et à partir Euro 7 qui vient d'être voté par le Parlement européen en 2024, établit des niveaux maximum d'émissions pour les véhicules, etc. On rentrera dans le détail si vous voulez, et qui fait que, par exemple pour celle-ci, plaquette de camion, 1er janvier 2030, les camions devront respecter un niveau d'émission de leurs particules fines de frein.
Oui, parce que quand on en parle habituellement, on pense pot d'échappement. Et effectivement, vous, c'est à ce système sur les roues, sur les freins que vous vous installez. Vous vous pluguez directement donc sur les roues à chaque fois des trains, des voitures, des camions.
Oui, le principe est un système d'aspiration. Donc, je ne vous ai pas tout amené, mais je vous ai amené le filtre de camion. Donc, ça va faire ça. Ça se remplit de poussière. Et c'est sous le véhicule. Et je vous ai amené, pour le plaisir, un filtre qui a fait l'objet de quelques freinages. Il est coulé dans de la résine parce que c'est quand même assez toxique. Et voilà à quoi ça ressemble quand on a capté les poussières de frein. Donc les poussières de frein sont effectivement particulièrement agressives.
Ça réduit ce système, par exemple, on va dire sur un train, ça réduit la pollution de combien? On peut mesurer ça?
On capte par aspiration, on capte au moins 75% de l'émission particulière. Donc c'est efficace, enfin, c'est effectif, ça donne véritablement quelque chose. Il faut voir que les émissions, vous avez parlé des véhicules automobiles et en particulier des pots d'échappement, pour juste qu'on voit la problématique, les réglementations euro, 1, 2, 3, 4, 5, et aujourd'hui on est à 7, ont fait que les véhicules des années de la fin des années 90 émettaient 150 mg par kilomètre du fait de leur pot d'échappement, aujourd'hui c'est 4.
Mmh.
D'accord ? Donc la réglementation est efficace. Aujourd'hui, un camion, ça émet, pareil, 300 mg au kilomètre selon l'utilisation, etc. Et la réglementation va contraindre tout ça à partir de 2030.
La réglementation, c'est une chose, il faut de la technologie pour faire ça, évidemment, des entreprises comme la vôtre. C'est 10 ans de recherche et développement.
Alors, Talano, c'est 10 ans de recherche et développement, effectivement, donc financé par nos actionnaires, par des levées de capitaux successives.
On va en parler, bien sûr.
Dans laquelle,
ne me regardez pas, ce n'est pas moi qui finance les levées de capitaux.
Le cabinet Astura nous a assisté régulièrement, parce que c'est quelque chose de très important. C'est 10 ans, de un peu plus de 10 ans, et depuis que la réglementation a effectivement été votée, parce que nous étions très en amont de la réglementation.
Oui.
Depuis que la réglementation a été votée, eh bien nous sommes en train de passer maintenant à l'ère de fabrication. Donc, d'une start-up qui était purement R&D, on devient une structure qui va fabriquer, ou faire fabriquer en vérité, et qui va faire fabriquer ces objets que vous voyez là, c'est-à-dire le bloc filtre, la turbine d'aspiration, etc.
10 ans de recherche et développement, cette entreprise a été créée en 2012. Vous l'avez repris. Vous l'avez repris quand ?
Alors moi, j'en ne suis pas le fondateur.
Oui.
J'ai rejoint cette entreprise en 2016, aux côtés du fondateur Christophe Cassera, qui s'est retiré en 2023. Et à ce moment-là, les actionnaires m'ont demandé de prendre la présidence.
C'est là qu'on va vraiment comprendre les différentes phases de croissance d'une entreprise technologique comme la vôtre. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ça, Raphaël. Qu'est-ce que ça demande ? Parce que les différentes levées de fonds sont faites pour ça. Il y a les fonds de départ, les fonds pour croître. Et tout ça, ces différentes phases qui permettent effectivement de répondre ensuite aux demandes du marché. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe réellement, ces levées.
Alors, comment ça se passe ? Effectivement, c'est des projets passionnants, des projets qui ont une dimension presque révolutionnaire.
Oui, c'est révolutionnaire, oui. Hein,
on parle de produits qui n'existent pas encore au moment où la société a été créée.
Le besoin est énorme.
Et donc, le marché est gigantesque, il n'y a personne, donc il y a des lumières dans les yeux de tout le monde, mais il y a une question qui est comment est-ce qu'on va financer un tel projet, puisqu'on ne peut pas espérer avoir des revenus avant un certain temps. Donc on est dans une démarche totalement à risque, puisque on ne sait pas si on va développer un produit, on ne sait pas si la réglementation va passer, on ne sait pas si, quand la réglementation passera, il y aura d'autres solutions ou pas. Donc on est vraiment dans une démarche d'invention qui va nécessiter de mobiliser des capitaux, qui va nécessiter donc des levées de fonds, puisque les banques ne vont pas prêter dans une configuration comme celle-ci. Et donc, étape après étape, la société va passer ce qu'on appelle des milestones. Et au départ, elle va réunir quelques personnes autour d'un fondateur, vous savez, on parle de business angel, de love money, etc. Des personnes qui vont croire au projet, qui vont pas forcément regarder des questions de valorisation et qui vont pas avoir beaucoup d'exigences, qui vont vraiment placer leur confiance dans l'équipe qui va porter le projet. Et puis, au fil des années, les besoins continuent. Naturellement, il faut fédérer une équipe, il faut des ingénieurs, il faut des développements. Et donc, depuis de nombreuses années, il y a eu plusieurs, on appelle tours, qui ont permis à plein de catégories différentes d'investisseurs. On disait au départ plutôt des personnes physiques, des familles, et puis progressivement des investisseurs plus qualifiés, ce qu'on appelle les fonds d'investissement,
ouais,
qui vont venir et qui vont, au fil des levées de fonds, avoir aussi des demandes, des attentes légitimes pour protéger l'investissement qu'ils vont faire dans la société.
On va voir où on en est aujourd'hui en termes de financement, mais est-ce que c'est pas incroyablement frustrant quand on est à la tête de ce genre d'entreprise, d'avoir un projet si prometteur, si révolutionnaire, il y a un problème de santé publique derrière ça, et de se dire je dois attendre que finalement ces gens qui ont de l'argent croient en moi.
Alors oui, c'est très frustrant, mais c'est surtout, au-delà d'être frustrant, ça consomme énormément d'énergie. Et le point qui est important, c'est que des structures comme les nôtres, qui vont vers un métier, parce qu'au départ, on n'a pas de métier, on invente, qui vont vers un métier, doivent intégrer ce qu'a dit Raphaël, c'est-à-dire que les financements vont se faire sur des cycles différents, avec des investisseurs différents, avec des exigences différentes, et chacun va augmenter son niveau d'exigence au fur et à mesure où on va demander de plus en plus de capitaux, et ça va consommer énormément de temps, énormément d'énergie. Pour reprendre ce que disait Raphaël, nous avons vécu exactement ça. Au tout début, la société a été financée par une espèce de love money, comme l'a dit Raphaël. Ensuite, on est passé sur des family office. Et puis, à partir de 2019, on commence à avoir des investisseurs institutionnels. Alors, en l'espèce des fonds, des fonds d'investissement. Et puis en 2021, notre dernier tour, principalement des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, on est encore en levée de fonds, hein, parce que c'est l'histoire,
c'est permanent.
L'histoire sans fin. Et c'est toujours des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, les investisseurs vont s'intéresser à une idée, à un projet, à un groupe d'individus, à des, aux personnes. Et puis, mais les sommes vont être limitées, évidemment. Et puis, quand on va avoir besoin de plus de capitaux, on va se retourner vers des professionnels de l'investissement qui vont avoir des exigences. Il va y avoir des packs d'actionnaires, toute la lourdeur de cet environnement.
Là, on l'a dit, il y a une échéance, hein, Euro 7. Donc, il faut répondre, c'est 2027, l'entrée en vigueur.
Alors, 2027 pour les véhicules légers, là, je vous ai amené sur les camions, c'est 2030.
Ouais, 2030, c'est-à-dire que voilà, la réglementation est mise en place, elle a été votée, elle a été décidée. Donc, maintenant, il faut délivrer, il faut fabriquer, vous l'avez dit. En termes de financement, on en est où, justement?
Alors, donc, il y a eu plusieurs tours qui ont été mentionnés. Il y a un tour encore... en cours, hein. Donc si les gens au standard veulent appeler, il faut les diriger vers Jean-Louis pour qu'ils puissent participer à cette incroyable aventure.
Ils nous écrivent sur les réseaux sociaux, on est là, on évidemment on relaiera.
Exactement. et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est les perspectives et les dynamiques dans lesquelles on se trouve. On a aujourd'hui, Jean-Louis l'a dit, plusieurs tours successives, plusieurs catégories d'investisseurs, et on a des investisseurs institutionnels qui, comme donc les fonds d'investissement, qui comme tout fonds d'investissement, doivent à un moment donné rendre l'argent qui leur a été confié. C'est pas leur argent, c'est l'argent de leurs souscripteurs. Mm-hmm. Et donc, qui est cette norme qui arrive ou pas, il y a d'autres exigences dans le temps, et Jean-Louis doit pouvoir piloter pour savoir qu'à un moment donné, les fonds d'investissement vont devoir faire face à leurs propres exigences de liquidité, et donc de sortir. Et puis, ce sera peut-être l'inverse qui se produira, c'est-à-dire qu'au contraire, on ira leur dire, en fait, on a encore besoin de vous parce que il y a un pivot de l'activité, parce que la norme n'est pas là, parce qu'on va se concentrer plutôt sur les camions que sur le ferroviaire, etc., etc. Et donc, il y a ces perspectives dans lesquelles la société doit naviguer et avec son équipe, être capable de trouver des solutions, de pivoter, naturellement d'assurer ses besoins à court et à moyen terme, et en même temps de piloter à plus long terme.
Vous faites des tests, vous avez fait des tests chez différents clients. Là, les clients potentiels, c'est qui?
Les constructeurs. Globalement, la réglementation s'adresse aux fabricants. Hein, donc, les fabricants de camions, hein, il y en a une demi-douzaine, c'est pas un univers très répandu, enfin, très important en termes de nombre.
Mais il y a les fabricants de trains aussi.
Alors, il y a les fabricants de trains. Pour être précis, la réglementation dont je parlais, Euro 7, c'est une réglementation transport routier.
Ouais.
Il n'y a pas encore de réglementation sur le train. Mais il y a encore moins de fabricants en termes de nombre. Hein, mais ce sont des petits métiers en termes de nombre d'individus. En revanche, le monde du camion, c'est 400 000 unités vendues en Europe par an. Donc, c'est significatif. Et ce sont les constructeurs qui ont cette contrainte. C'est-à-dire que, pour être un peu dans le détail, Euro 7 est une réglementation d'homologation. Ce n'est pas une réglementation comme par exemple il y a eu sur le CO2 où on paye des amendes si les véhicules ne correspondent pas. Là, c'est fini cette époque-là. Maintenant, ce n'est pas homologué. Donc, interdit à la vente. C'est une réglementation qui est contraignante. Mmh. Le véhicule qui ne respecte pas la réglementation ne sera pas vendu en Europe. Donc, le constructeur est en rang 1 sur cette problématique. Alors évidemment, le constructeur ne fabrique pas ses freins. Il y a un fabricant de freins. Mais notre interlocuteur de base, c'est le constructeur. Et tout son écosystème autour de lui, le fabricant de garniture, le fabricant de filtres, le fabricant du système de freinage dans son entier.
Donc ça veut dire que si c'est contraignant, ils vont être obligés d'installer vos produits, ou ceux de certains concurrents j'imagine, sur leurs machines.
Alors, ils vont être obligés de respecter la réglementation. Et c'est là où on rentre dans ce que disait Raphaël sur l'évolution d'une start-up comme la nôtre au cours du temps. Hein, la ouais. réglementation bouge, etc. Donc il faut qu'on soit flexible et qu'on s'adapte à la réglementation. Il faut que nos investisseurs nous suivent. Et à un moment donné, il faut faire des choix. La réglementation aujourd'hui, la plus intéressante pour nous, c'est celle qui vise le monde du poids lourd. Parce que c'est très fortement émissif. Donc nous, on est allés... Et c'est pour ça que je vous ai amené des plaquettes de camions. Là. On est allé sur le monde du camion. Donc c'est ça. Le constructeur, lui, va chercher évidemment toutes les solutions qui lui permettront de respecter la réglementation. Nous sommes la solution. J'espère qu'il n'y en a pas une qui va sortir demain matin et que nous n'avons pas vu. Mais nous restons dans des secteurs d'innovation forte. Alors, plus l'échéance se rapproche, plus évidemment la position de celui qui était là avant se renforce. La barrière à l'entrée devient importante. Mmh. Donc, nous, on est là depuis plus de 10 ans. Donc, pendant 10 ans, il a fallu expliquer pourquoi on était là. Aujourd'hui, soudainement, toute cette antériorité a une valeur immense, car nous avons fait énormément de tests. Nous avons testé sur des camions de la ville de Paris. Nous avons testé sur... Il y a eu toute une expérimentation qui est toujours en cours aujourd'hui dans la ville de Mulhouse, avec le groupe Transdev, le leader mondial du transport urbain, sur des bus. Donc, il y a plein d'expérimentations. Et effectivement, nous avons toute cette antériorité. Mais je ne peux pas garantir aujourd'hui que nous serons les seuls.
Oui, vous avez quand même cette expérience, vous avez accumulé cette expérience et ces tests, comme vous l'avez dit, avant de lancer ce produit. Raphaël, vous avez en quelque sorte entre les mains la fabrication, ou non, potentiellement, quand on voit la taille du marché, d'un champion européen.
Ben, écoutez, c'est très impressionnant.
Oui, et les financements, ouais, ouais. Et le bon timing dont on parlait tout à l'heure, dans les phases de financement et de croissance, ben, tiennent un peu sur vos épaules en réalité.
Non, alors c'est très sympa de dire ça, mais ce serait aller au-delà de ce qui est notre rôle. Mais notre rôle, c'est d'accompagner. Et notre rôle, c'est d'être là, c'est de permettre que les opérations se fassent et qu'elles se fassent dans de bonnes conditions. Donc notre rôle, c'est d'être là quand nos clients ont besoin de nous, dans les instants un peu décisifs des questions de levée de fonds, mais aussi sur des questions de... Bon, voilà, une société comme Talano a des enjeux en matière de propriété intellectuelle, et donc c'est des sujets qu'on va regarder de très près, comment structurer, protéger, défendre les actifs incorporels qui sont les actifs de la société. Et donc on aura la chance, dans l'histoire dont on est en train de parler, on a la chance d'accompagner sur certains besoins ponctuel mais décisif et stratégique pour la société, nouer un partenariat pour l'industrialisation du produit une fois qu'il a été développé, et puis sur d'autres opérations exceptionnelles de levée de fonds avec des configurations qui vont beaucoup changer, qui vont être aussi fonction de la réalité du marché. Vous savez, comme le marché est difficile, l'année 2025 a été particulièrement difficile pour les levées de fonds, et on est toujours sur cette tendance-là. Vous n'avez pas entendu le mot IA. Vous n'avez pas entendu le mot défense, et pourtant on est dans un projet, on pourrait dire, de santé publique majeur, et donc c'est très difficile dans ces conditions. Et donc nous, notre rôle, ça va être d'aider et de permettre et de faciliter, puisque vous avez donc des configurations, on l'a pas mal dit, de personnes différentes, et donc quand vous mettez tout ça ensemble, il faut que ça fonctionne. Et donc notre rôle, il est là pour alerter, identifier les sujets, et puis surtout essayer de trouver des solutions.
Malgré la grandeur du marché, c'est vrai que ce qui est écologique, RSE, qui répond à ce type de problème depuis quelques années, c'est des thèmes qui sont un petit peu plus compliqués à vendre, effectivement, que l'intelligence artificielle, vous l'avez dit. Les investisseurs sont moins là-dessus, vous le sentez? Ou quand on présente ce projet, c'est évident, il faut ce type de produit.
Alors, vous touchez du doigt la question, en fait, de quel investisseur pour quel produit?
Oui.
Et le monde de l'investissement est un monde qui suit beaucoup certaines modes. Donc il y a des effets de cycle. Il y a des moments où les investisseurs veulent tous de la même chose. Je ne parlerai pas d'aujourd'hui sur le monde de la défense, mais on voit tous les jours que des secteurs qui étaient complètement en désespérance deviennent le secteur du moment. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper sur son choix de partenaire financier et d'investisseur. Nous, Talano, ce que nous avons dit, c'est que nous avons commencé avec des investisseurs personnes physiques qui sont toujours là et qui nous ont soutenus. Mais quand on a eu besoin de cette expansion qu'évoquait Raphaël sur l'industrialisation, etc., et sur tous ces tests, on a eu besoin de capitaux plus importants. Donc des investisseurs institutionnels. Il faut bien les choisir. Il faut bien les choisir parce qu'il ne faut pas avoir des gens qui voudront sortir trop tôt, n'ont pas parfaitement intégré le sujet, font la navette entre une bonne idée du jour et une bonne idée du lendemain. Non, non, il faut des gens qui se tiennent. Et c'est très important pour la société parce qu'on peut être sur un secteur très porteur, particulièrement prometteur, avoir tout ce qu'il faut. Mais si à un moment donné, on n'est pas soutenu par ses investisseurs, eh bien, on vit une crise de cash et on meurt. Mmh. Aujourd'hui, comme le disait Raphaël, le marché n'est pas très porteur. Nous, on a la chance d'avoir des investisseurs qui sont très sérieux dans ce secteur-là. Donc, ce sont véritablement des gens qui veulent faire de l'impact et qui nous soutiennent. Donc, c'est difficile. Mais quand on a bien choisi ses partenaires au départ, on peut survivre au creux. Si on a pris juste des gens qui font du surf sur la mode, eh bien le jour où il y a un pépin, ils vous laissent tomber. Et c'est plus dur.
On est spécifiquement sur des investisseurs européens? Ou est-ce qu'on est aussi, vous avez élargi et... Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les levées de fonds sont plus simples, plus faciles, plus, non, plus importantes. Est-ce que vous vous étiez mis ce genre de barrière où il fallait, quoi qu'il arrive, trouver des gens qui croyaient en le projet l'un et l'autre?
En vérité, nous, on s'est mis plutôt sur des investisseurs, ce sont des investisseurs européens, pour répondre à votre question, et plutôt là-dessus, tout simplement parce que la base de départ, c'est une réglementation européenne.
Oui.
Et donc, ça parle instantanément, évidemment, à tous les Européens. Il faut savoir que les réglementations euro, par capillarité, se sont déployées dans le monde entier, jusqu'en Chine. Et donc, il y a maintenant des réglementations sur la qualité de l'air, avec les problématiques de particules fines de frein en Chine, qui sont en train de sortir. Mais il n'en demeure pas moins que l'Europe est très en avant, donc les investisseurs sont plutôt là. Mais ça aurait pu.
Mais Raphaël, tu accueilles bien volontiers des investisseurs d'autres continents s'ils souhaitent investir et prendre cette avancée technologique majeure pour être leader dans leur pays.
Raphaël nous a accompagnés sur certains développements quand vous parliez de développements internationaux. On a des développements au Japon. Des développements au Japon dans le domaine ferroviaire. Eh bien, il nous faut aussi dire oui, évidemment, même si ce n'est pas immédiatement pour nous, c'est le relais de croissance de demain. Il faut avoir des soutiens juridiques capables de tenir la rampe sur ce genre d'endroit, etc., etc. Donc, nous avons une activité qui est principalement européenne, bien qu'elle ait une logique mondiale.
Bah, peut-être que les dirigeants de demain seront bien plus, regarderont davantage cette question, notamment aux États-Unis. On va peut-être complètement basculer un jour avec un président écolo. Et là, évidemment, il faudra prendre des investisseurs américains. On va terminer cette émission en se tournant un peu vers le futur. On a parlé de fabrication. C'est quoi les prochaines étapes, du coup?
Alors là, nous avons des partenaires industriels, c'est-à-dire que Talano ne va pas créer d'usine. Ça n'a pas de sens. Il y a des tas d'entreprises françaises et européennes, mais en particulier françaises, dans le domaine de la sous-traitance automobile, qui sont capables de fabriquer. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de contractualiser, merci Raphaël, avec nos partenaires industriels, pour être en mesure de livrer pour 2030.
Ouais.
Parce que d'un point de vue du constructeur, je vous dis que la cible, entre guillemets, le client, c'est le constructeur. Le constructeur, il sait qu'il a un problème. La réglementation lui a imposé. Maintenant, il veut une solution, mais il veut une solution déployée, une solution industrielle. On n'est plus dans la start-up qui a une bonne idée. Il faut un produit à l'échelle européenne.
Les chiffres, du coup, ce serait produire combien d'unités d'ici 2030 ou d'ici l'année prochaine?
Alors, les chiffres, d'ici l'année prochaine, on va être à quelques milliers d'unités parce que c'est la montée en charge. On est en petite cadence.
Oui.
2027, on est en petite cadence pour faire tourner les chaînes. 2028, ça va commencer à vraiment monter. Et 2029, il faut être prêt pour le 1er janvier 2030. Donc là, ça dépendra des contrats que nous aurons passés avec les constructeurs.
Voilà,
nous sommes prêts.
Entre vos mains, Raphaël, tout ça. Les partenariats aucune, pour la fabrication, va falloir délivrer maintenant.
Aucune pression, on enlève le frein à main. Absolument, mais autant de sujets enthousiasmants à regarder. Évidemment, il y aura toujours des sujets d'actionnaires. Mmh. Aujourd'hui, on a un actionnariat qui est quand même assez éclaté, plus de 80 actionnaires, toutes ces configurations qu'on a évoquées. Il y aura aussi, à un moment donné, des sujets de nouvelles levées. Donc, on compte beaucoup sur notre client Talano pour continuer à nous occuper et surtout à être sur cette dynamique de croissance qui est tout à fait séduisante, y compris dans l'économie actuelle où toutes les nouvelles ne sont pas forcément faciles, de voir qu'il y a des gens comme Jean-Louis, qui entreprennent contre vents et marées, contre les difficultés de la réglementation européenne, qu'on ne contrôle pas, tout ce qu'il faut pour emporter une équipe avec des projets aussi beaux que celui-ci.
C'est un projet très important. La levée est encore en cours, on l'a dit. Hein.
on l'a dit, bien sûr, toujours.
BFM Entreprise, il est encore temps d'investir dans cette entreprise. Talano, technologie qui lutte contre les particules fines de freinage. On le rajoute, c'est absolument important parce que c'est une grande part des particules. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission.
Merci.
BFM Entreprise consacrée à la croissance. Jean-Louis Juchot, président de Talano Technologies, et Raphaël Dalmas, fondateur et avocat associé chez Astura, avocat au barreau de Paris et de New York. BFM Entreprise, c'est tous les jours à 12h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée.
BFM Entreprise, croissance, la stratégie sur BFM Business.